Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la radio de l'Institut de France. Michel, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que nous allons présenter la Revue des Deux Mondes, le prochain numéro de la Revue des Deux Mondes, donc le numéro de mai, intitulé 21e siècle, l'art et le sacré. Alors, Michel, dans nos conversations privées, dans nos conversations off, comme on dit, nous évoquions beaucoup le religieux comme une thématique à aborder dans la Revue des Deux Mondes. En tous les cas, vous vouliez y revenir. Et vous le faites ici, et donc avec ce numéro qui s'inscrit dans un contexte particulier. En l'occurrence, il s'agit d'une exposition, celle de Beaubourg.
Voilà, une exposition qui démarre aujourd'hui, enfin qui a commencé hier, Traces du Sacré, et qui consiste à présenter. Alors, je parle pour l'exposition, après on parle du numéro, qui c'est pas les deux ne coïncident pas. Hein, le numéro n'est pas le catalogue de l'exposition. L'exposition, elle, se donne pour tâche, pour but, de mettre en scène la manière dont un certain nombre d'artistes au long du XXe siècle, depuis la fin du 19e jusqu'à une date très récente, ont répercuté, enregistré, transmis un événement considérable, même décisif pour justement la compréhension qu'on peut avoir de l'art au XXe siècle, à savoir la dislocation des fondements sur lesquels reposait tout un mode de représentation du réel et même de la transcendance dans l'art religieux, justement. Et donc d'affronter cette situation historique inédite, d'avoir à vivre dans une sorte d'inconnu, que résume très bien d'ailleurs la fameuse phrase de Nietzsche sur la mort de Dieu. Hein. C'est bien de cela qu'il s'agit, sauf que la mort de Dieu, loin de régler la question, ne fait que l'ouvrir encore plus. Hein. Mmh, mmh. Donc, cette question du sacré, elle est à comprendre en écho hein, à cette situation historique très particulière qui consiste à vivre dans un monde déserté par Dieu.
Ce mot justement de mort de Dieu est très présent dans la Revue des Deux Mondes. Sur ce numéro, il est présent dans votre éditorial, mais aussi dans l'article de Michel Cazenave. Et à chaque fois, que cela soit vous, que cela soit Cazenave ou un autre, eh bien, il est très nuancé, c'est-à-dire qu'il n'est pas catégorique.
Non, parce que c'est une situation très compliquée et que, si vous voulez, on a l'impression d'être sans arrêt dans des paradoxes et dans des contradictions. La mort de Dieu, c'est pas la fin de Dieu. C'est une autre manière d'être en relation avec lui, d'une certaine manière. Sauf qu'on ne s'adresse pas à une présence, mais on s'adresse à une absence. Mais les absences, parfois, sont aussi présentes que certains modes de présence. Donc, pour en venir à ce numéro... Je ne suis pas le commissaire d'exposition. Hein, il m'a paru très intéressant de prendre le problème en interrogeant un certain nombre d'œuvres considérées a priori comme significatives par rapport à cette question. Donc là, en l'occurrence, des œuvres aussi différentes que celles de Malraux, dont on a réédité en Pléiade récemment tous les écrits sur l'art, extrêmement important. Georges Bataille, qui est certainement de tous les écrivains modernes du XXe siècle, celui qui a le mieux posé la question du sacré au XXe siècle. Breton, toute la curiosité surréaliste pour une forme de mystique ou de magie, enfin bon, un horizon encore tout à fait différent. Mais aussi Roland Barthes, auquel je me suis intéressé de très près, et qui, pour peu qu'on s'y intéresse sérieusement de près, est quelqu'un qui a été très régulièrement en relation avec des œuvres où la question du sacré était très présente, Jacob Boehm, les grands mystiques du XVIIe, etc. Donc tout ça chez Barthes, repris dans une problématique de l'amour, du discours amoureux, donc c'est encore autre chose, très voisin, très cousin d'une certaine forme d'expérience mystique. Donc c'était intéressant, très excitant même, de mettre tout ça en relation et d'en faire un lieu d'écho, de questions.
Alors, vous évoquiez la mystique. Jean-François Louette, dans son article sur Georges Bataille précisément, évoque, lui, une mystique sans Dieu. Hein, le terme est utilisé par Mauriac, à la mort précisément de Bataille. De son côté, dans son interview de Bill Viola, qui est un artiste contemporain, Catherine Soulard, elle, pose la question de la distinction entre le sacré et le religieux, la religion. Est-ce qu'on peut dissocier les deux termes ? Peut-on être mystique, au fond, sans Dieu ?
Oui, la réponse est oui. Il faut absolument distinguer les deux termes, parce que sinon, on entre dans une confusion et une source de malentendus très dommageable. Donc je dirais que le religieux, c'est la forme particulière que peut prendre une certaine expérience du sacré. Mais le sacré, en tant que tel, il a une existence propre, si vous voulez. Le sacré, c'est cette part... Alors Bataille appelait ça la part maudite, appelons ça la part d'ombre. En tout cas, une dimension de l'existence qui n'est pas susceptible d'être enfermée à l'intérieur d'une catégorie, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire aussi bien politique que religieuse au sens institutionnel ou au sens confessionnel du terme, si vous voulez. Le sacré, c'est vraiment... la part irréductible, la région des dieux, ceux qu'on peut peut-être nommer, mais dans une relation de peut-être de crainte, et ceux qu'on ne peut plus nommer. Et précisément l'expérience moderne, l'expérience du XXe siècle, c'est une expérience où cette dimension du sacré ressurgit comme une forme d'altérité, c'est-à-dire comme quelque chose qui n'est pas nommable. Qui n'est pas nommable. Et c'est évidemment quelque chose de très dérangeant, de très troublant. Et donc, il est tout à fait évident, tout à fait normal, si je puis dire, que l'art enregistre cette secousse, ce tremblement de terre, et tente malgré tout de lui donner une forme et de l'exprimer. Le cri, ce fameux tableau emblématique d'Edward Munch, le cri, qui a été d'ailleurs volé récemment, qu'on a retrouvé... au musée d'Oslo, je crois, ou je sais plus. Enfin, mais ce tableau d'Edward Munch est tout à fait emblématique de ce que je suis en train d'essayer de dire. C'est une situation de grande solitude pour l'homme européen qui était habitué à vivre dans un monde où les réponses étaient là, ou en tout cas il y avait un nom possible à mettre sur une dimension transcendantale qui se trouve tout à coup privée de nom, et donc d'autant plus vertigineuse qu'on ne peut pas la nommer.
Dans votre journal littéraire, là je ne parle pas de votre éditorial, vous dites « J'admire sincèrement cette sorte d'exploit qui évite aussi bien le piège de la conversion fantasmée que celui d'un pseudo-universalisme des spiritualités. » Est-ce que l'altérité que vous évoquiez tout à l'heure, n'est-ce pas ce pseudo-universalisme des spiritualités ?
Non, je ne crois pas, parce que si les mots ont un sens, l'altérité, c'est vraiment une expérience de la séparation, une expérience de la distance, et donc d'un espace qui n'est pas surmontable, qui n'est pas franchissable. Alors que dans le pseudo-universalisme dont vous parlez, on est au contraire dans quelque chose qui évite l'altérité et tente de lui substituer une espèce d'harmonie générale où justement tous les obstacles sont... relativisés, où les incompatibilités sont finalement exorcisées, enfin, etc. Donc, non, pour moi, c'est extrêmement différent. Extrêmement différent.
Alors, nous allons sortir de ce sujet de l'art et le sacré. En revanche, je vais rester dans votre journal littéraire. Un conseil de lecture, le livre de Patrice Gueniffet,
oui.
Le 18 Brumaire, qui, on le sent, vous a beaucoup marqué.
Oui, en tout cas, j'ai lu ce livre avec énormément d'intérêt.
Un livre paru chez Gallimard.
Oui, voilà, qui paraît dans la collection, la fameuse collection Les 30 journées qui ont fait la France. Donc, qui à la fois reprend un certain nombre de titres de cette collection, bien connus, et qui en propose d'autres. Et ce livre fait partie des nouveaux titres dans la collection. Et Gueniffet a donc proposé là une lecture du 18 Brumaire qui porte en sous-titre d'une façon tout à fait éloquente la phrase suivante, l'épilogue de la Révolution française. Autrement dit, comment Bonaparte, retour de, d'Égypte, dans des circonstances d'ailleurs assez rocambolesques et qui mériteraient vraiment aussi là, qu'on s'y arrête 5 minutes. Comment Bonaparte donc a finalement, en prenant le pouvoir, ce fameux jour du 18 Brumaire, en mettant fin au directoire, en réalité fait plus que ça et effectivement met un point final à cette longue épreuve enfin, que la France a connue avec la Révolution française et démarre autre chose, dont il va essayer d'être la référence, l'étalon, le moment fondateur. C'est toute la problématique du futur Napoléon qui s'esquisse déjà dans le 18 Brumaire. C'est comment fonder de la légitimité, comment fabriquer de la durée quand... Par ailleurs, on sait, et lui le sait, qu'il n'a pas justement, contrairement aux grandes monarchies qui ont la tradition avec elles, la légitimité de la tradition, lui ne l'a pas. Donc comment faire en sorte que ce manque de légitimité, ce manque de durée, puisse être malgré tout rendu possible ?
Il y a un aspect très intéressant, vous le citez, Guenifet, il dit à propos de Napoléon, Bonaparte, puisque à l'époque il s'agit de Bonaparte, s'il comprenait les passions révolutionnaires, il ne les partageait pas. Il y a une sorte de paradoxe, puisque au fond le mythe de Napoléon se créera après sa mort, après sa disparition, par une sorte d'élan romantique et révolutionnaire.
Oui, c'est la grande contradiction napoléonienne ou l'équation napoléonienne qui est restée irrésolue finalement. C'est d'être à la fois un homme, comme Guenifet le montre très bien, un homme prudent, qui n'aime pas les extrêmes, donc qui n'aime pas les jacobins, enfin qui n'est pas à l'aise avec le discours jacobin, en tout cas un certain discours radical, qui n'est pas non plus à l'aise évidemment avec... avec les représentants de l'ancienne monarchie, et donc qui est très soucieux d'équilibre, et donc à certains égards modeste, et par rapport à l'image qu'on a habituelle du conquérant. Mais les choses sont liées, justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir affaire à un personnage à la fois soucieux d'équilibre et en même temps condamné à être ce conquérant, parce que c'est la conquête qui lui apporte la légitimité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Chose que justement l'historien Jacques Bainville, bien connu de vous, cher Christophe, a mis magistralement en scène dans son propre ouvrage sur Napoléon.
Alors, autre conseil de lecture, hein, il s'agit d'une réédition, on réédite énormément de livres du 19e, l'art du 18e siècle des frères Goncourt, un ouvrage qui, là aussi, vous a marqué, paru aux éditions du Lérault.
Oui, ça c'est un magnifique travail d'éditeur d'abord, magnifiquement annoté en 2 volumes pour une somme finalement assez modique de 80 euros. Vous avez vraiment une édition du 18e siècle des frères Goncourt formidable. Et donc c'est une plongée dans cette période aux noms plus que glorieux, Chardin, Watteau, Boucher, Fragonard, etc. Mais aussi, et c'est ça qui est formidable, et là où on retrouve le génie des Goncourt, c'est-à-dire toute une rumeur de quotidienneté, tout le monde des galeries, des amateurs qui examinent des dessins, ils nous font participer à cette sorte de fièvre. Et ça donne au livre une chair qui m'a vraiment, vraiment enthousiasmé. Magnifique.
Alors, autre conseil de lecture, mais cette fois, c'est Marin de Viry qui nous le donne. Et il nous le donne après avoir taillé quelques croupières à ses collègues journalistes. Hein, il dit à leur propos, je leur demande de l'information et des analyses et on m'offre leur spectacle.
Oui, c'est à propos, je crois, du livre de Bruno Le Maire.
Homme d'État.
Des hommes d'État. Oui, qui est un livre intéressant, d'ailleurs, parce qu'il est justement un peu à la frontière de l'analyse et du portrait, et avec une sorte de recul sur cette dimension spectaculaire, de spectacle, d'entertainment, comme on dit maintenant, du monde politique, dont Nicolas Sarkozy est une sorte d'emblème surdimensionné. Voilà, donc Marin a fait, elle a fait cette lecture du livre de Lemaire, que je trouve une bonne lecture.
Alors je voudrais terminer cette émission, cette présentation du numéro de mai de la Revue des Deux Mondes, par le discours de Xavier Darcos, que vous publiez, un discours prononcé au dîner du cercle de la Revue des Deux Mondes, sur les relations entre l'école et la civilisation. Alors je pense que vous pourriez faire un numéro sur la Revue des Deux Mondes intitulé « Qu'est-ce que la civilisation ?». Mais alors là, il s'agit de l'éloge du professeur, mais comme si on devait douter d'eux, en quelque sorte.
Il y aurait un numéro à faire aussi sur les professeurs, mais hélas. Oui, c'est toute la difficulté dans laquelle se débat le ministre actuel, Xavier Darcos, de revaloriser cette figure du professeur qui a été tellement importante dans la tradition républicaine, presque investie d'une mission sacerdotale, et qui aujourd'hui est en plein désarroi. Alors je crois que ce qui est intéressant dans l'approche de Darcos, c'est qu'il a une... Étant lui-même
ancien professeur,
il sait de quoi il en tourne, donc ça change le point de vue. Mais le défi est terrible.
Eh bien, nous renvoyons nos auditeurs donc à cet article intitulé « Nous ne ferions rien sans eux ». En tous les cas, il s'agissait de cette conférence organisée par la Revue des Deux Mondes. Merci beaucoup, Michel.
C'est moi.
J'annonce également à nos auditeurs que le nouveau site de la Revue des Deux Mondes va bientôt être mis en ligne.
Oui, le 14 mai prochain.
Le 14 mai, et c'est un site très important, notamment pour les chercheurs, puisqu'il met en ligne des milliers et des milliers d'archives.
Voilà, on a entrepris la numérisation complète de la collection de la revue, donc depuis 1829 jusqu'à aujourd'hui, donc c'est énorme. Tout ne sera pas d'ailleurs terminé le 14, je dois le dire, mais enfin, l'horizon n'est pas loin quand même.
Eh bien, merci beaucoup Michel, et au mois prochain pour un
Avec plaisir.
De la Revue des Deux Mondes. C'était Au fil des pages, restez à l'écoute de Canal Académie.